Bon après-midi à tous et à toutes. J'ai pas pris personnellement le fait qu'on voulait pas me mettre de microphone. Je me suis pas dit ils veulent pas m'entendre. J'ai pas osé croire cela. Oui, oh, ce serait l'humiliation ultime. Hein? C'est bon de vous voir. Vous savez, nous sommes dans l'Apocalypse depuis déjà un bon petit moment. Hein? Preuve en est, nous en sommes au chapitre 20 sur 22 chapitres, alors on se dirige vers la fin. L'Apocalypse est un livre qui est là pour encourager le peuple du Seigneur, le peuple de Dieu. Et on a constamment besoin d'encouragement. On chantait tout à l'heure dans le cantique numéro 89, « J'ai soif de ta présence », un couplet qui m'a rappelé ce que notre frère Denis nous enseignait mercredi dernier. Dans la prière, le premier point pour que Dieu nous écoute, c'est qu'on investisse notre cœur. Hein, ce n'est pas qu'on fasse toutes sortes de gestuels ou quoi que ce soit, mais que notre cœur soit vraiment investi dans la prière. On avait établi que c'était la même chose pour le chant, puisque le chant, c'est une prière chantée. Nous vivons dans un monde hostile et difficile, vous savez. On sait que c'est une grâce que Dieu fasse en sorte qu'on puisse venir à lui. C'est parce qu'il a, on l'a vu en Apocalypse 23, enchaîné Satan pour un certain temps. On va en parler encore tantôt. Ça veut pas dire que parce qu'il est enchaîné, qu'il est passif. Il demeure encore très actif. Et on a besoin d'être conscient de cela. Afin de vivre dans la prudence, de marcher un peu à pas feutrés, dans ce monde qui n'est pas le nôtre, somme toute, hein? On n'est que des pèlerins qui y passons. Et on chantait tout à l'heure la deuxième strophe du cantique 89, « Des ennemis dans l'ombre ». D'abord, des ennemis, ce n'est pas des amis, par définition. Et en plus, ils sont dans l'ombre. Tu ne les vois pas venir. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Effectivement, nous sommes environnés d'un très grand nombre d'ennemis qu'on a à combattre, qui viennent nous décourager. Des ennemis qui viennent dans nos relations de couple, des ennemis qui viennent dans l'éducation de nos enfants, des ennemis qui viennent dans notre désir de former un couple, ou des désirs qui viennent dans notre désir de fonder une famille, ou des ennemis qui viennent dans notre travail, qui viennent dans nos pensées, qui viennent dans le fait que matin après matin, on se lève et on se dit « il ressemble à celui d'hier ». On peut en arriver avec une espèce d'érosion, une espèce de lassitude. À quel point on a besoin de savoir dans quelle période nous vivons? À quel point on a besoin d'avoir une motivation pour garder les yeux sur le cap? Les gens qui n'ont pas d'identité, il y en a plusieurs. Le monde n'a pas d'identité. Se voue à toutes les passions possibles, et même des passions criminelles, hein? Et on cherche quelque part à avoir son 15 minutes de gloire, à avoir un peu de signification aux yeux du monde. On passe à la télé, on passe sur les journaux, ensuite c'est le tribunal et ensuite c'est la sentence et on disparaît jamais. Vous voyez? Une vie qui n'a pas de sens. On fait du surplace et ensuite on y crève. L'importance de savoir où nous en sommes. De savoir, parce que c'est quand nous savons où nous en sommes que nous savons où nous allons. Et l'importance de garder la bonne direction, je nous invite à ouvrir la parole du Seigneur au chapitre 20 de l'Apocalypse. Nous lirons les versets 7 à 10 aujourd'hui. Apocalypse 20, versets 7 à 10. Est-ce que c'est Dave qui lui a enseigné ce beau petit gazouillis-là? « Parole de notre Dieu, donc. C'est à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On ajoute un amen à cette parole de jugement-là sur l'ennemi de nos armes. Amen. Être chrétien, frères et sœurs, c'est adopter une compréhension particulière de l'histoire, parce que c'est un texte historique que nous avons ici. C'est un texte apocalyptique, mais c'est un texte qui nous parle d'histoire également. C'est une synthèse historique de tout ce qui se produit entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ. Et ce point-là a été souligné par Augustin d'Hippone, qu'on appelle Saint-Augustin, bien sûr, dans son grand ouvrage, son magnum opus, hein, La cité de Dieu. Le monde gréco-romain, à l'époque d'Augustin, dans laquelle Augustin vivait, considérait l'histoire comme un processus circulaire sans fin. C'est un peu le tout de la philosophie. La philosophie n'a pas une vision linéaire de l'histoire, mais davantage une vision circulaire de l'histoire. Et la plupart des non-chrétiens de l'Antiquité croyaient que les mêmes événements se répétaient indéfiniment sans signification ultime. Si vous étudiez, si vous avez fait un peu de philosophie, les premiers philosophes cherchaient à comprendre cette histoire-là, ont cherché à expliquer cette espèce de répétitivité qui ne menait nulle part. Augustin a montré que l'incarnation du Fils de Dieu, il a démontré que la mort expiatoire du Christ Jésus était des événements uniques et irrépétables, démontrant que l'histoire avance selon le plan rédempteur de Dieu. Aujourd'hui, l'humaniste séculier qui se promène les pouces dans les bretelles, hein? L'humaniste séculier croit au progrès. Il fait confiance à l'ingéniosité humaine pour résoudre les problèmes et ouvrir de nouveaux horizons et de nouveaux horizons d'opportunités. Au contraire, le croyant biblique, lui, affirme que l'histoire se précipite vers la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Après laquelle, que va faire le Seigneur? Ben, il va amener son jugement sur le monde. Il va juger le monde et il va faire en sorte que les desseins de Dieu pour le salut s'accomplissent finalement et pleinement. Et ces visions différentes de l'histoire produisent différents types de vie. Ce qui vraiment met en relief l'importance d'une eschatologie biblique. Eschata, c'est la doctrine des fins dernières. Le croyant se doit de savoir où s'en va l'histoire. C'est linéaire. Autant pour son existence personnelle au-delà de la tombe, ou de la... On appelle ça comment? Où on met la poussière, là? De l'urne, hein? Au-delà de l'urne ou de la tombe, hein? Que pour le plan futur de Dieu, pour le monde tout entier. Et à cet effet, le texte que nous allons voir aujourd'hui ne manque pas de diffuser beaucoup de lumière sur le sujet. Il nous présente un épisode saisissant. Il nous présente la dernière tentative de Satan. D'où le titre de mon message, « Le dernier droit ». C'est terminé, il n'y a pas de courbe, c'est le dernier droit et ça se termine là. Donc, la dernière tentative de Satan, après le millénaire, pour s'opposer à Dieu. Et c'est pas un texte, encore une fois, qui vise à nous effrayer, bien au contraire, nous qui sommes croyants, mais bien plutôt à asseoir, à affermir, à enraciner notre espérance et notre confiance en notre Dieu. Je vous propose trois avenues dans l'approche de ce texte-là. Je ne vous surprendrai pas en vous disant cela. Le terme du millénium, premièrement. Deuxièmement, le terme de la rébellion. Et troisièmement, le terme de l'histoire. Que le Seigneur bénisse ces quelques propos tout simples et qu'il puisse motiver nos cœurs. Le terme du millénium, verset 7, début du texte. Quand les 1000 ans seront accomplis. Ah ben voilà. Le texte, il est au futur. Ça nous en dit quand même long. Hein? Manifestement, ce n'est pas encore accompli. C'est quelque chose à venir. Et d'entrée de scène, donc, nous nous retrouvons dans ce millénium-là. C'est ce que nous vivons actuellement. Et nous avons d'ores et déjà établi qu'il s'agit de toute cette période entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons donc dans l'attente de la fin de ce millénium-là. Et le monde, depuis la chute, a toujours vécu dans l'attente, a toujours vécu dans une posture d'attente. Dans l'Ancien Testament, cette attente-là reposait sur la promesse de Dieu d'envoyer un sauveur, d'envoyer un Messie qui écraserait la tête du serpent, Genèse 3,15. Et maintenant que ce sauveur est venu, notre attente est dans sa deuxième venue et dans son retour. Nous vivons à la lumière de l'incontournable retour du Christ Jésus. Nous sommes donc dans une position d'attente. Et cette attente-là, ce n'est pas quelque chose de vide ou quelque chose de flou, mais c'est une attente qui consiste en une espérance concrète. Une espérance, c'est une attente, hein? Et celle que nous avons, elle est, on ne peut plus concrète. Et c'est la raison pour laquelle le monde est désespéré, le monde est sans espérance. On a déjà cité le grand essayiste du 18e siècle, Dr. Samuel Johnson, qui disait « On ne vit pas de plaisir en plaisir, mais d'espérance en espérance. » Et plus précisément, dans une espérance qui a un contenu. Ce que la parole de Dieu qualifie d'ailleurs d'espérance bénie. Tite, chapitre 2, verset 13. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance. » Voilà le mot. « Et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » C'est dire qu'au sein de la pléthore des circonstances et d'épreuves auxquelles nous sommes exposés, nous vivons d'espérance. Hein, on vient de le chanter, « Je vis d'espérance, hein, d'amour et de foi. »« Je vis d'espérance, d'amour et de foi. » Comme le disait quelqu'un en citant le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et lui disait, « Je ne manquerai pas d'épreuves non plus. » C'est vrai qu'on ne manque de rien, pas plus d'épreuves que d'autres choses. Job, chapitre 5, verset 7, nous dit, « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Ça nous donne l'heure juste, hein? Quand on est toujours à la recherche de ne pas avoir de souffrance, d'être dans une petite place tout en douceur, non éprouvée. Non, bien au contraire, nous sommes en attente et en voie de formation. Il n'y a donc pas de place pour les épicuriens en ce bon monde. Ça va, tu vois. Et comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, c'est une réalité qui est au rendez-vous. J'ai eu le privilège dans le passé de prêcher sur le texte de 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 à 14. Je vais passer un petit peu de temps dessus maintenant. C'est un message que je vais intituler « Que faire en attendant? » C'est un texte qui nous dit « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? » Tout cela, c'est tout ce dans quoi nous sommes actuellement. Cette terre qui va être remplacée. Il n'y aura pas une nouvelle création. Hein? On appelle ça l'eschatologie incoative. Ça va être un renouvellement et non pas une nouvelle création d'une autre terre. En tout cas, c'est autre chose. Donc, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Attendez. Voilà. L'attente. Attendez et hâtez. L'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, trois fois que le verbe « attendre » revient, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Bon. Le verset 13 nous dit « Mais nous ». Nous avons une belle conjonction ici. Mais, vous vous rappelez de vos conjonctions? « Mais ou donc et ornicar hein? ». C'est comme ça que vous les appreniez aussi. Alors, « Mais nous, nous attendons ». C'est un verbe à l'indicatif présent. C'est-à-dire que nous sommes toujours en train d'attendre. Notre modus vivendi, c'est l'attente. On vit dans l'attente que quelque chose va arriver. Et le verbe, il est effectivement à l'indicatif présent. Et le verbe dans le grec parle d'une attente fervente. Alors, c'est pas une attente lâche. Oh, ça nous revient à l'esprit de temps en autre. Non. C'est une attente qui est partie prenante de ce que nous sommes, en quelque sorte. Nous attendons le renouvellement. L'espérance la plus glorieuse de la Bible. Hein? C'est l'événement vers lequel, d'ailleurs, pointe tout le message biblique. Hein? Il y a le danger d'avoir cette réalité-là dans nos credos, mais de l'occulter par les affaires du monde. Vivre dans l'attente ne veut pas dire qu'on tombe en psychose. Hein? On a connu, Diane et moi, un frère, on disait de lui qu'il avait un esprit d'enlèvement, parce qu'à l'époque, on était un peu dispensationaliste. Et lui, hein, il surveillait les nuages, il voyait constamment Jésus en train de revenir. Un bon frère, mais il était très, très porté vers la chose, disons. Alors, il y a danger d'avoir cette réalité-là dans nos credos, mais de l'occulter en raison des affaires de ce monde. L'attente, c'est plus qu'une posture. C'est une attitude active. C'est pas comme un homme, comme j'ai la coutume de dire, qui attend sa femme au centre d'achat, vous voyez. Il vit dans l'attente. Il regarde sa montre aux 5 minutes, puis il trouve que ça prend donc du temps avant qu'elle sorte. Hein? Elle a vu une robe, ensuite elle a vu une blouse, ensuite elle a vu des souliers. Alors la journée est passée, vous voyez. Alors c'est pas c'est pas le genre d'attente auquel on fait référence ici. C'est une attente active dont on parle. Vous savez ce que Luther disait? Non, je vous le dis. Si je savais que le Christ revenait aujourd'hui, je planterais un arbre. C'est intelligent, je trouve. Je continuerai à vivre ma vie normalement, à m'occuper de ma mission, jusqu'à ce que le Christ soit revenu. C'est ce qu'il m'est demandé de faire. Les attentes, l'espérance du chrétien ne se trouvent pas en ce monde qui est voué à la destruction. L'Évangile gifle à répétition, d'ailleurs. L'optimisme pathétique des dernières décennies qui a généré tellement de cynisme. L'espérance fondée sur les choses espace-temps. Ça passe, ça n'a duré qu'un petit temps. C'est éphémère, c'est terminé. On passe à autre chose. Hein? Ce monde est condamné. Et loin de s'améliorer, sa rébellion contre Dieu ira en s'accroissant. Le message de la Bible aux humains n'est pas sauver le monde. Le message de la Bible aux humains n'est pas sauver le monde. On se réjouit lorsqu'il y a des politiques qui améliorent le climat social. Mais c'est pas ça qui va sauver le monde. C'est pas l'objet de notre prière pour le salut du monde. Non, n'est pas sauver le monde, mais sauvez-vous du monde. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ça ne veut pas dire que nous n'avons aucun souci pour le monde présent. Le Seigneur a quand même ordonné l'État, les magistrats, les gouvernements, et ils jouent un rôle important, mais c'est un rôle négatif. Prévenir que le monde ne se détériore trop rapidement. Restreindre le mal et ses effets. C'est une des raisons d'existence de la loi, d'ailleurs. Donc, notre espérance ne réside pas dans les gouvernements, mais nous attendons l'accomplissement final de la promesse de Dieu. Nous sommes dans une attente active. Non seulement le croyant attend-il, mais il vit dans une attente préparatoire. Pour ça que c'est actif. On est en préparation. Le croyant vit dans une attente préparatoire. Il est en train d'être ajusté, selon ce que faire se doit. Le verset 11, d'ailleurs, de ce même péricope de Pierre, ce n'est pas une question, mais une exclamation. Le verset dit, « Quelle ne devrait pas être votre conduite et votre piété dans la sainteté? » Oui, c'est un temps donné pour nous perfectionner un petit peu plus. Pour nous approcher de ce qui va être rendu parfait lorsque le Christ va revenir et qui va nous amener effectivement dans la perfection. C'est intéressant dans le grec que conduite et sainteté sont au pluriel. Ils viennent chercher toutes les sphères de notre vie. Et c'est bien le motif de la sanctification du Nouveau Testament. Jamais une conduite morale, jamais une conduite éthique, est une fin en soi. Une bonne vie n'est pas une fin en soi, mais est toujours décrite en termes d'espérance bénie. En théologie, vous savez, on dit « L'impératif moral suit toujours l'indicatif eschatologique. » Il faut d'abord savoir ce qui était fait pour nous, afin de s'appuyer sur quelque chose pour aller plus loin. Sinon, on s'appuie sur nos propres forces, oui. L'exemple que j'ai souvent donné, quand j'étais petit, remarquez que quand j'œuvre à côté de Mathieu, j'ai l'air encore petit. Mais quand j'étais petit, dans mon lac Saint-Jean natal, comme j'aime à dire, le travail ne courait pas les rues, vous savez. Et souvent, l'hiver, les hommes où je vivais devaient aller passer l'hiver dans le bois à œuvrer comme bûcheron. C'était très exigeant, vous savez. Et mon papa est allé aussi, au moins pendant un hiver. Je ne sais pas s'il est allé plus souvent, mais je me souviens d'un hiver en particulier. J'étais très jeune. Et vers la fin de l'hiver, il revenait. Et ma maman savait à peu près vers quel moment il allait arriver. Et la maman disait, les petits gars... Papa revient, on venait foufou, notre papa revenait à la maison. Alors, ma maman nous habillait, on était chic, des deux petits princes, et ma maman disait, ne vous chicanez pas, là, votre papa revient. Et on se comportait très bien, vous voyez, on vivait dans l'attente du retour de notre papa. C'était une grosse motivation, papa allait venir, on jouait, on œuvrait un petit coup d'œil par la fenêtre de temps en temps pour voir si on ne verrait pas son ombre. C'est un grand moment lorsque papa revenait. C'est un bien plus grand moment parce que Jésus revient. Il revient bientôt. On vit dans cette attente-là. Et Dieu nous dit, ne vous chicanez pas, ne vous querellez pas. Comme Joseph disait à ses frères, ils sont allés chercher Jacob, ne vous querellez pas en chemin. Sanctifiez-vous. Mettez-vous beau, Jésus revient. Alléluia. On peut risquer un alléluia avec un petit coup de jambe comme ça, oui. Amen. J'aurais fité samedi, là, avec ça, oui, oui. Vendredi, bon, je suis toujours un petit retard, vous voyez. Bon, je suis perdu avec ça. Donc, notre Sauveur revient. La sanctification, c'est pas une liste de règles, c'est pas une liste, comme on dit tellement souvent, de do's and don'ts. 2 Pierre, chapitre 3, verset 14, nous dit, c'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, en attendant papa, en attendant Jésus, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Un chrétien devrait être différent, pas bizarre. C'est vrai que parfois on a l'air un peu bizarre. Mais enfin, un chrétien devrait être différent. Quand vous êtes différent, vous attirez les gens. Quand vous êtes bizarre, vous les effrayez, ils s'en vont. Spurgeon disait, « Lorsque vous marchez dans les rues de Londres, rappelez-vous que vous avez la réputation de Dieu entre vos mains. » Voilà. Le texte de Pierre, donc, quant à notre attitude de vie, nous dit que non seulement devons-nous attendre et nous préparer, mais il ajoute quelque chose d'autre. Il nous dit qu'il nous faut encore faire quelque chose d'autre, au verset 12, 2 Pierre 3, « Attendez et hâtez l'avènement du Seigneur Jésus. » Vous voulez qu'il revienne? Alors, on peut hâter l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu complexe, hein? Comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux insister pour qu'il revienne un peu plus vite? Hein? Le texte nous le dit, la parole de Dieu nous l'a bien révélé. Manifestement, l'expression signale un sentiment d'urgence. Hâter la venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as le feu dans la maison, on sauve ce qui est important. On ne sauve pas les bagatelles. On se dirige vers vraiment ce qu'il y a de la valeur. Comment pouvons-nous accélérer le décret divin? Ça sonne bizarre un peu, hein? Voici ce que ça veut dire. On ne doit pas penser à ces choses en termes de date, en termes de temps, mais en termes de conditions morales. Est-ce en ce jour, Seigneur, que tu vas... Hein? Les disciples demandent à Jésus. Jésus, seul le Père le sait. Le Fils de l'homme, dans son incarnation, ne le sait pas. Oui. Alors, ce n'est pas une question de date, c'est une question de condition morale qui importe. Et dans un premier temps, nous pensons à la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres en Matthieu 6, 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Apocalypse 22, 20, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus. » Donc, comment pouvons-nous hâter la venue du Seigneur Jésus? En nous préparant nous-mêmes et en prêchant l'Évangile. Connaissez-vous une autre manière de faire? La fin viendra quand la plénitude des gentils et la plénitude des juifs seront entrés, quand tous les élus, tous les rachetés auront été séparés du monde par les régénérations. Matthieu, au chapitre 24, verset 14, nous dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Alors, viendra la fin. Ou le commencement, on sait selon. Bien-aimés, marchons de plus en plus dans la sainteté. On peut le faire, hein, parce que Dieu qui est en nous le vouloir et le faire. On dirait pas ça à un groupe de chevaliers de colons, je ne sais trop quoi. Un groupe très gentil, mais qui n'est pas passé par la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Témoignons, proclamons l'Évangile, soutenons l'œuvre missionnaire et l'œuvre de notre Église. Notre demeure éternelle s'en vient. Verset 13. Mais nous, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Une petite subtilité en passant, c'est le verbe kataoikain, pour ceux qui aiment le grec, là, formé de deux mots, kataoikos, qui nous dit que c'est une demeure permanente. La justice va habiter en permanence, en comparaison avec le paraoikos, qui donne en français le mot paroisse, demeure temporaire. Voyez? Quand Jésus va revenir, la justice va avoir établi sa demeure permanente. Mon deuxième point, le terme de la rébellion, les versets, je m'étais pas gouré là, ça vraiment. Le terme de la rébellion, versets 7 à 8. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Cette vision-là reflète l'enseignement du Nouveau Testament quant à la rébellion venant marquer la fin de l'ère de l'Église, la fin de l'ère que nous vivons présentement, actuellement. C'était le discours du Seigneur lui-même, d'ailleurs, dans Matthieu 24, verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Il y a donc une grande persécution, une grande secousse, satanique, je pense qu'on ne comprend pas l'expression, qui va avoir cours lorsqu'après les 1000 ans, Satan va être relâché de sa prison. L'apôtre Paul, en chapitre 2, dans l'Épître aux Thessaloniciens, verset 3, que notre frère nous a lu, « Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. » On se dirige vers l'avenue de l'Antéchrist. Ça, l'Antéchrist, c'est un sujet extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié cela, on ne s'embarquera pas là-dedans, sinon juste un petit peu. Le mot antéchrist apparaît une seule fois, somme toute. Le mot antéchrist au singulier n'apparaît pas dans la parole de Dieu. Il nous a parlé qu'il va y avoir des antéchrists, qu'il y a toujours eu des antéchrists. Maintenant, lorsqu'on arrive dans 2 Thessaloniciens, il nous a parlé de l'homme impie, l'homme injuste par excellence, c'est l'antéchrist. Et il est au masculin. Alors là, c'est plus quelque chose de neutre, c'est plus un système, c'est un personnage qui va se pointer, donc qui va se présenter à la fin du millénium. On viendra là-dessus une autre fois. On pourra certainement citer une pléthore d'autres versets à ce sujet-là. Dans notre parcours de l'Apocalypse jusqu'à maintenant, on a été témoin d'attaques répétées contre l'Église. Cependant, ces attaques venaient d'un ennemi enchaîné. Apocalypse 23, un ennemi enchaîné. Mais voilà qu'au terme de ces 1000 ans symboliques, cet ennemi-là retrouve sa pleine liberté. On dit bien « retrouve la liberté » parce qu'il l'avait effectivement perdue. Rappelons-nous, comme le rappelle le verset 3, que Satan a toujours été le séducteur des nations, les empêchant de venir à Dieu. Et ça, depuis Éden, où il a séduit nos premiers parents, et ça s'est poursuivi tout au long de l'histoire, jusqu'à ce qu'on vienne le lier. On se rappellera cependant la promesse de Genèse 3,15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, de dire Dieu, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, » et tu lui blesseras le talon. » Donc, comme on le disait dans l'entretien, ça a été le début de la longue attente de celui qui venait écraser la tête du serpent. Mais où est l'agneau? Se demandait-on. Où est l'agneau de Dieu qui viendrait écraser la tête du serpent? Dieu n'a pas manqué de rester à l'œuvre tout au long de l'histoire pour se sauver un reste duquel naîtrait le sauveur. On n'a qu'à penser au déluge, où le Seigneur sauve une toute petite phalangine d'êtres humains. S'il était mort avec le reste, on n'aurait pas pu avoir la naissance d'un sauveur, vous voyez. Dieu dirigeait parfaitement, souverainement, son plan dans cette perspective-là. Mais dans Apocalypse 23, rappelons-le, l'ange saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Pour quelle raison? Afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, et c'est précisément là où nous en sommes dans notre texte. Après les 1000 ans, il va être délié pour un peu de temps. On se rappellera à partir de notre étude d'Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3, que Satan avait été lié afin qu'il ne puisse plus séduire les nations, qu'il ne puisse plus empêcher les nations de venir à l'Évangile, de venir au Christ, et l'Évangile de se répandre dans le monde. Ça ne veut aucunement dire que ça venait mettre un terme à toutes ces activités. Loin de là. Est-ce que quelqu'un croit que Satan est encore à l'œuvre aujourd'hui? Vous pouvez risquer, oui, je ne sais pas, on ne vous excommuniera pas. Il est très à l'œuvre, des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Alors, donc, ça ne mettait pas fin à ses activités, mais il n'avait plus l'autorité de garder les nations dans les ténèbres de l'incrédulité. Que fait-il donc dès qu'il est relâché de sa prison? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à ce qu'il avait laissé. Il retourne là où il en était. Hein? Il reprend là où il avait laissé. Il sortira pour séduire les nations. Oui? Qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Et leur nombre est comme le sable de la mer. Voyez-vous? Le mal n'est jamais réformable. Est-ce que je peux dire ça? Oui. Il est seulement maîtrisable. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes sauvés, Dieu dit pas, OK, je vais te sauver, là, puis je vais essayer de maîtriser le mal. Non, il nous fait naître de nouveau. Le mal, ce n'est pas réformable. Ce n'est que maîtrisable. On reçoit une nouvelle vie. Même après une longue période de restriction, Satan demeure le même. Et sa mission reste inchangée. Séduire, tromper, détourner les nations. Cette réalité sur laquelle il est impératif de nous arrêter nous montre que l'outil maître de Satan dans le monde n'est pas la persécution. Bien sûr qu'il se produit la persécution, mais ne peut pas causer de réels dommages. On est persécuté, mais est-ce que ça nous enlève notre salut? On est persécuté, mais est-ce que ça a de quoi avoir avec notre... N'est-ce pas? Est-ce que ça nous sépare de Dieu et du Christ Jésus? Est-ce que ça nous enlève l'Esprit Saint d'aucune façon? L'outil par excellence, c'est la séduction. La séduction, elle, fait en sorte de garder les personnes loin de Dieu. L'outil par excellence de Satan dans le monde, c'est la séduction, et c'est la raison pour laquelle l'Église chrétienne est envoyée dans le monde avec la vérité qu'elle se doit de proclamer, et cela dans son refus de compromis avec les dogmes de l'incrédulité séculariste. Pourquoi est-ce que nous avons la vérité? Pour confondre la séduction de Satan? C'est pour ça que l'Église, hein, le Christ va dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie comme. C'est la même mission. C'est pas une nouvelle mission, c'est la mission du Christ qui se poursuit. On se fait souvent dire aujourd'hui que les chrétiens devraient être moins fixés sur la doctrine et davantage tolérants des idées et des pratiques du monde. Vous avez déjà entendu ça? Ah, eux autres, c'est la doctrine. Ah, eux autres, c'est la théologie. Hein? C'est vrai, hein? Il y a une espèce de résistance à cela. C'est vrai qu'il y a un danger de tomber dans un intellectualisme qui nous éloigne de la simplicité du Christ. Mais être en plein de la simplicité du Christ ne veut pas dire qu'on tombe simplement simpliste, hein? Même un peu bête, bien au contraire. La doctrine demeure extrêmement importante. Donc, moins centré sur la doctrine, plus tolérant des idées et des pratiques du monde, est-ce qu'on peut tenir un discours plus alarmant alors que la stratégie première de Satan est la séduction? Si on ne veut pas être séduit, il faut être bien ancré dans la vérité. Pas une vérité de surface, une vérité de profondeur, enracinée à nos cœurs. Et on ne peut que voir que les tendances pécheresses du cœur humain, loin d'évoluer vers le haut, ne font qu'empirer. Dès que Dieu enlève sa restriction, les nations sont à nouveau séduites. Le but de Satan dans son œuvre de déception a toujours été de conduire l'humanité perdue en guerre contre Dieu. Et c'est ce qui mettra fin à cet âge. Verset 8, « Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. » Toutes les nations. Pas une ou deux nations au hasard. Toutes les nations. Il est sorti de sa prison, il n'est plus lié, il est en œuvre magistrale de séduction et il amène Gog et Magog, toutes les nations en guerre contre notre Dieu. Ici, en effet, les nations rassemblées sont identifiées par les noms de Gog et Magog. C'est une référence, comme vous le savez peut-être, qui nous vient d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 38, où le prophète prédit un grand assaut contre le peuple de Dieu. Ézéchiel, les chapitres 1 à 33, traitent du jugement de Dieu sur la Jérusalem infidèle, impliquant sa chute aux mains de Nebuchadnezzar. Au chapitre 34-37, Dieu promet le réveil de son peuple par le moyen de l'Évangile du Christ. Nous lisons en effet au chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et au verset 38-39, Ézéchiel annonce un assaut final contre le peuple de Dieu, justement avant de décrire le temple symbolique des chapitres 40 à 48 qui décrivent l'âge éternel du retour du Christ. Alors, dans le contexte qui nous occupe, Gog et Magog symbolisent le mal dans toutes les nations de la terre. Et ce mal vient de toutes les directions. Et dans cette guerre finale, l'armée ennemie composée de toutes les nations, nombreuses comme le sable de la mer, ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. C'est nous autres, ça, le camp des saints et la ville bien-aimée. Il est question d'un investissement. Il est question d'être envahi, d'un envahissement de la part de l'ennemi. Oui, c'est ce qui nous attend. Moi, je suis pas le plus grand promoteur du post-millénarisme, comme vous le savez, et encore moins depuis que j'étudie l'Apocalypse. Hein? Ce qui s'en vient, c'est pas quelque chose de rosy. On n'est pas en train de préparer un 5 à 7, n'est-ce pas? Mais ça va être littéralement l'envahissement de Satan contre le camp des saints et contre la ville sainte. Il n'y a aucune mesure de comparaison entre le rassemblement des nations en armée et le camp des saints et la ville bien-aimée. On n'a aucune possibilité, de quelque sorte que ce puisse être par nos propres forces, de résister à cela. À vue humaine, devant une telle incompatibilité des forces en présence, on ne peut que s'en remettre au propos du psaume 2, verset 4, « Celui qui siège dans les cieux rit ». Le Seigneur se moque d'eux. Il est Dieu. Et ça nous amène à notre troisième point, le terme de l'histoire. Versets 9 et 10. « Mais un feu descendit du ciel et les dévora. » Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le commentateur John Lilly écrit ce qui suit. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme, le jour de l'ambition de l'homme, des plaisirs de l'homme, des jugements de l'homme, de la gloire de l'homme, et Dieu n'est point dans toutes ses pensées. Psaume 10, verset 4. Quel grand changement par rapport à cela que le Yom Yahweh, que le jour du Seigneur. Alors les regards des orgueilleux, les regards orgueilleux de l'homme seront abaissés, l'arrogance des hommes sera humiliée et l'Éternel seul sera exalté en ce jour-là. On a fait uniquement un survol, bien-aimé, de cette péricope, mais c'est véritablement la réalité qui nous parle de la grande rébellion de Satan, la grande armée de Satan et la grande défaite de Satan. Il y aurait tellement plus à dire. Dieu de tenir un discours semblable par le biais de la plume de l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 et 8, de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Combien de gens vont vous dire « Oui, moi je crois à ça. Oui, moi je crois. » Qu'est-ce que ça veut dire « connaître Dieu » Le mot « connaître » veut dire « naître avec connaître ». Il est question de naître avec le Christ. Il est question d'un engagement pur et ferme à l'endroit de notre bien-aimé Sauveur. Dans cette vision, nous avons ici une enfance particulière de la défaite et de la destruction de Satan lui-même. Et c'est ce qui complète la section du jugement qui avait commencé au chapitre 17. Les dernières paroles de ce texte méritent qu'on s'y arrête au verset 10. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il ne reste pas beaucoup de temps. Jour et nuit. Pas de pause. Le jour et la nuit. Pendant combien de temps? Au siècle des siècles. C'est un propos qui nous pousse dans une seule direction, à savoir le besoin impératif d'échapper à ce jugement-là. Il s'agit d'un jugement, c'est un jugement tel que beaucoup, et même certains chrétiens, vous savez, ont voulu contourner. On a tenté toutes sortes d'échappatoires, mais rien n'y fera. Certains ont parlé d'universalisme. « Ah, à la fin, finalement, tout le monde va finir par être sauvé. » J'ai entendu ça, certainement. D'autres ont soumis la thèse de l'annihilationnisme. Ça se dit tellement bien. John Stott, un théologien qu'on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup John Stott. Mais incapable de figurer ce jugement-là pour l'éternité, voyez-vous. D'autres encore ont parlé de la possibilité d'une deuxième chance, deuxième occasion, dirait-on. Hébreux 9, 27 nous dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » On n'en sort pas, vous savez. Il va avoir lieu ce jugement-là, et aucun incrédule ne va y échapper, sinon ceux qui sont venus au Christ Jésus, qui l'auront connu à salut. Il n'existe qu'un seul refuge contre ce jugement, et c'est en Jésus qu'on le trouve. Comme je viens de le dire, non pas seulement confesser le Christ Jésus, mais être son disciple, se reposer sur ton œuvre, marcher selon ses injonctions. Frères et sœurs, pensez-moi un régionalisme, OK? Typiquement québécois, ne niaisons pas avec le POC. Je ne sais pas comment Gloria va voir son téléphone traduire cela, là, mais littéralement, ça veut dire « Donnons-nous tout entier à notre Seigneur Jésus-Christ. » Il n'y a pas de place pour le laisser aller dans le discipulat. Bien-aimés, gardons à l'esprit cette réalité que nous vivons donc dans une attitude d'attente active qui se manifeste dans toutes les circonstances de nos vies. C'est une attente à la fois éprouvante et motivante, puisqu'elle repose sur une espérance certaine qui a pour nom Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, on trouve deux fois plus de versets qui nous parlent de son retour qu'on en trouve qui nous parlent de sa première venue. C'est encourageant. Ne nous attendons pas à un règne de paix pendant ce millénium en raison de la réalité persistante du mal. Le mal ne prendra pas de pause. Le mal n'est jamais réformable, comme on disait. Il est tout au plus maîtrisable. L'œuvre de séduction de l'ennemi ne prendra fin qu'au retour du Christ. Attendons-nous, alors que le temps avance, à une opposition comme jamais vue auparavant. Troisièmement, la victoire de Dieu au terme de cette dispensation n'est rien de moins qu'immédiate et finale. Dieu n'est jamais menacé par les attaques du mal qui ont une limite, et c'est une limite qui est fixée par Dieu lui-même. L'histoire se termine toujours selon le plan divin. L'histoire se termine toujours selon le plan divin. Le peuple de Dieu peut sembler assiégé, mais la victoire appartient entièrement à notre Dieu qui a toujours le dernier mot. Amen. Alléluia.